pays endeuillé le mois dernier par une attaque terroriste. Une insécurité renouvelée qui pousse les habitants à revoir leurs habitudes, vous l'entendrez. La finance internationale veut s'ouvrir aux peuples autochtones. C'est en tout cas le sujet d'un double forum organisé à Rome. On vous explique tout dans Afrique Éco. Et puis nous retrouverons bien sûr Maman depuis le Gondwana avant de nous quitter. RFI, merci d'être avec nous. Tout de suite, les sports. C'est avec vous Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Pierre.
Un journal des sports très éclectique ce matin avec de la lutte et du badminton. Mais avant ça, un mot de football et des performances africaines sur les terrains européens. En Angleterre, Mo Salah offre un nouveau succès à Liverpool.
Grâce à un penalty de leur pharaon, les Reds dominent Wolverhampton 2-1 et reprennent 7 points d'avance sur Arsenal en tête de la Premier League après 25 journées. En Bundesliga, troisième but de la saison pour Gift Orban. Le Nigérian permet à Hoffenheim, 15e au classement, de respirer un peu avec un succès 3-1 sur la pelouse du Werder Bremen. Puis enfin, en France aussi, plusieurs buteurs africains, notamment Nabil Bentaleb, l'Algérien revenu 8 mois après un arrêt cardio-respiratoire et qui offre la victoire à Lille sur Rennes, un succès 2-0 pour son grand retour sur les terrains.
En République démocratique du Congo, la lutte se bat pour survivre.
Aucune compétition n'a eu lieu dans le pays depuis les derniers Jeux de la francophonie. En juillet 2023, même les championnats nationaux ne se tiennent plus depuis 6 ans. Face à cette situation, la Direction technique nationale congolaise a organisé une compétition de 4 jours pour classer les meilleurs lutteurs du pays. C'était à Kinshasa, sous les yeux d'Olga Massangou.
C'est dans un gymnase du Stade Tata Raphaël, qui ne s'ouvre presque plus depuis les derniers Jeux de la francophonie, que les amoureux de la lutte se sont retrouvés pour se régaler et retrouver la sensation des championnats nationaux. Des combats dans plusieurs catégories pour permettre à Bertrand Bassampi, directeur technique national, de situer le niveau de chacun des athlètes. Lui qui doit constituer les sélections nationales en prévision des championnats africains.
Chaque athlète qui doit intégrer au sein de l'équipe nationale soit vraiment un meilleur. Un vrai champion. Alors il faut passer aussi par une compétition qui doit nous aider.
Une tâche difficile pour la direction technique quand le dernier championnat national remonte à 6 ans. Bamona Percy, 86 kilos, est l'un des champions de la soirée.
Il faut 4 victoires.
Je viens de gagner mon premier combat 8-2. Il me faut 4 victoires sans défaite pour que je sois champion.
Entre une implantation totale de la discipline dans les provinces, son organisation et la participation des équipes nationales au championnat africain de la spécialité, c'est un vrai défi qui attend le nouveau comité de la FECOLUTA. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
Et on termine avec du badminton, comme promis, et le rideau qui tombe sur les 28e championnats d'Afrique à Douala.
Sur la victoire en individuel du Nigérian Juwon Opeyori, du côté du double messieurs, c'est un duo algérien qui l'a emporté en battant en finale l'équipe mauricienne. Et malgré la déception, le capitaine mauricien Alexandre Bongou gardait le sourire.
Je suis un peu satisfait de bonne perf, même si on ne s'attendait pas en double homme, sachant qu'on n'est pas des joueurs de double. On est quand même arrivé en finale, donc c'était déjà un très beau parcours. On est arrivé le 10, on a joué jusqu'au 16, on a enchaîné tous les 7 jours sans s'arrêter. Du coup, c'était très dur physiquement. Pour nous, c'était une surprise d'arriver en finale par équipe, parce qu'on est arrivé une petite délégation et on fait une très belle perf. On est satisfait. Le championnat d'Afrique, c'était très physique, avec très haut niveau cette année-ci, avec tout le monde qui avait leur chance d'accéder au podium, d'accéder à la médaille. Il fallait vraiment être fort mentalement et physiquement. Et en plus, avec la chaleur et l'humidité, ça rendait encore plus dur la récupération. Très bonne infrastructure, de très bons terrains. Les volants étaient parfaits, les conditions de salle étaient parfaites, il n'y avait pas de vent et tout. Ça faisait plaisir à jouer ici.
Alexandre Bongou avec Joël Ouadem. Chez les dames, c'est la paire algérienne qui s'est imposée.
Antoine Grenier pour les sports, merci à vous. Il est 4h46 en temps universel. Et à la une de l'actualité internationale de ce lundi 17 février, un procès très attendu qui s'ouvre aujourd'hui en France. Plus de 10 ans après, les otages de l'organisation État islamique face à leurs ravisseurs, 5 personnes jugées jusqu'au 21 mars, dont notamment le djihadiste Mehdi Nemmouche, le tueur du musée juif de Bruxelles en 2014, déjà condamné à la prison à perpétuité. Ce rendez-vous pris aujourd'hui à Paris où se retrouveront plusieurs dirigeants européens. Il s'agira d'ajuster la position face à l'accélération de Donald Trump sur le dossier ukrainien, réunion présentée comme informelle par la présidence française et à laquelle doivent assister les chefs de gouvernement de l'Allemagne, du Royaume-Uni, d'Italie, de Pologne, d'Espagne, des Pays-Bas et du Danemark. ainsi que le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN. De son côté, Donald Trump justement affirme qu'une rencontre avec Vladimir Poutine pourrait intervenir très bientôt. Et dans ce contexte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky invite ses alliés européens à éviter un accord forgé par les Américains dans le dos de son pays et de l'Europe. Le Royaume-Uni s'est dit prêt hier à envoyer des soldats en Ukraine si nécessaire. La diplomatie américaine qui suit de près également la situation au Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain a renouvelé à Jérusalem son soutien au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, alors que le cabinet israélien doit se réunir ce lundi pour discuter de la suite de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Israël qui annonce l'envoi de négociateurs au Caire. Et puis à 15 jours de la cérémonie des Oscars aux États-Unis, hier soir, la cérémonie des BAFTA, la grand-messe du cinéma britannique, avec deux films qui décrochent chacun 4 trophées. Le thriller Conclave de l'allemand Edvard Berger qui remporte entre autres le prix du meilleur film et The Brutalist qui remporte de son côté celui du meilleur réalisateur pour l'américain Bradley Corbet et de meilleur acteur avec Adrien Brody. Nous sommes maintenant au Bénin sur RFI. Rappelez-vous, c'était le 8 janvier dernier, une attaque coûtait la vie à plus de 30 soldats dans la zone dite du point triple à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Revendiqué par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, elle s'est soldée par les plus lourdes pertes depuis le déploiement de l'opération Mirador. Notre envoyé spécial s'est rendu dans cette région à Banikoara. La situation sécuritaire est bien sûr dans tous les esprits et les habitants adaptent leurs habitudes quotidiennes, surtout en soirée. Le reportage de Magali Lagrange.
Les commerces sont ouverts à Banikoara Centre. Issiako attend les clients derrière la grille de son kiosque jaune et bleu.
C'est mon activité ça. Je fais transfert d'argent et je vends des crédits aussi. Avant ça marche. Mais maintenant, c'est la patience. Le temps est un peu dur. Dans la journée, comme ça, on ne vend pas. C'est le matin, le soir. Et maintenant, le soir aussi, notre temps est limité. Je quitte ici à 20h30 pour ma sécurité aussi.
Plusieurs sources locales évoquent le transport de carburant par des jeunes soupçonnés de ravitailler les groupes armés.
Des fois, les militaires viennent pour embarquer certaines personnes. On leur dit que, bon, on vous a vu transporter les bidons d'essence, amener ça de l'autre côté de la commune. Parce qu'il y a certaines localités, tu ne peux pas aller là. Si on te prend là, c'est toi seul, tu vas subir les conséquences. Nous-mêmes, on ne se retrouve pas. Hein.
À côté de lui, des émis de gens, des mototaxis patientent à l'ombre. Ce jeune homme, casque sur la tête, s'arrête sur un côté de la voie pavée.
Ah, vraiment, il y a la peur. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Si on prend, on voit que c'est quelqu'un, il est djihadiste, on ne sait pas où. C'est pour cela qu'on a toujours peur de faire même le travail. Par exemple, les lieux interdits d'aller à cause de l'insécurité, là, comme Djumbaro, Kabaro. Au niveau des Mekrou, on ne peut pas aller tous ces liens-là. Tu parles là-bas, on va te qualifier comme tu es aussi djihadiste ou bien comme si tu es aussi un criminel. Donc ça fait qu'on reste toujours en ville.
Brouettes, motos et piétons circulent dans les rues adjacentes. Ce jeune homme vend des produits alimentaires avec son père. L'activité marche bien. C'est surtout le soir que la vie a changé.
La nuit, il y a les militaires qui font la patrouille. Donc à partir de 0h du genre, il n'y a pas trop de promenade. Donc il y a un confinement, on dirait. Ah bon, avant, j'avais l'habitude de me promener un peu aux alentours de 22h et aller jusqu'à 01h comme ça. Mais dès que les militaires ont commencé, du coup, à 22h, déjà, je suis à la maison. On entend des frappes ailleurs, on entend, donc, on ne sait pas quand est-ce que ça vient chez nous. Mais quand même, pour l'instant, ça va.
Il n'y a officiellement pas de couvre-feu à Banikoara Centre, mais de sources locales, plusieurs villages de la commune, riverains du parc W et frontaliers du Burkina Faso, sont concernés de 18h à 6h du matin. Magali Lagrange, de retour de Banikoara, RFI.
Et ce reportage est le premier d'une série de 4 qui seront à retrouver jusqu'à jeudi sur RFI et sur notre site internet rfi.fr. De l'économie maintenant dans Afrique Matin, permettre l'accès à la finance internationale aux peuples autochtones. C'était tout le sujet de deux événements qui s'inscrivaient en parallèle la semaine dernière à Rome. D'un côté, le rendez-vous annuel du Fonds international de développement agricole, le FIDA. De l'autre, celui du Forum des peuples autochtones. Il faut dire que le FIDA est persuadé du rôle à jouer des peuples autochtones dans la lutte contre la malnutrition. Cependant, leurs connaissances et pratiques sont mises en péril aujourd'hui. Alors les aider à accéder à la finance internationale et notamment à la finance climatique pourrait être un levier important. Pourtant, Afrique Éco est aujourd'hui préparée par Charlotte Cosset.
Les peuples autochtones évaluent qu'1% seulement de la finance climatique leur revient directement. Ilaria Firmian est analyste senior sur ces questions au sein du FIDA.
Souvent, les structures financières multilatérales et bilatérales ne sont pas suffisamment flexibles parfois pour donner un accès direct aux organisations des peuples autochtones. Non, c'est plutôt aux grandes ONG internationales. Et je pense aussi qu'il y a un petit peu un manque de confiance vers les organisations des peuples autochtones.
Un diagnostic partagé par le Congolais Albert Baroumé, rapporteur spécial des Nations Unies sur les peuples autochtones.
Il y a toute cette discussion de financer les autochtones, les organisations autochtones par intermédiaire de penser qu'ils ne sont pas capables de digérer, de tenir des comptabilités. Il y a toute cette perception des préjudices stockés dans nos subconscients et qui, en fait, constituent la base de tous ces outils qu'on met en place, mais qui finissent par discriminer certaines personnes.
Pour lui, pas de secret, il faut permettre un accès plus direct au financement à ces populations.
S'il n'y a pas de diminution ou allègement ou simplification de ces procédures, je ne pense pas que ces mécanismes de financement seraient justes. Je pense que c'est un défi qui reste quasi entièrement à relever. Parce qu'on est dans ce paradigme de penser que pour accéder à un financement, il faut être en mesure de remplir tel formulaire, de tenir une certaine sorte de comptabilité, de suivre certaines règles, d'avoir un minimum de connaissances. Mais comment on fait si on continue à nourrir les mêmes cibles et on ignore une grande masse qui n'a pas ces capacités?
Il y a quelques années, le FIDA a mis en place le mécanisme d'assistance pour les peuples autochtones, l'IPAF, Hilaria Firmian.
Un mécanisme dans lequel on donne des petits dons directement à des projets qui sont formulés et mis en œuvre par des communautés autochtones elles-mêmes. Et on reçoit un nombre incroyable de demandes. C'est un mécanisme qui est reconnu pour bien fonctionner, mais pour vous donner une idée du manque de finances, on a reçu pour les derniers cycles quelque chose comme 650 propositions et on a été en mesure d'en financer 53.
Le FIDA finance par exemple en Éthiopie un projet axé sur la préservation de l'anset, une sorte de banane locale dont les racines sont consommées, très résistantes, mais menacées notamment par les nouveaux types d'agriculture.
Charlotte Cosset pour Afrique Éco. Merci Charlotte. Allez, il est 4h53 en temps universel. Le combat continue pour le député d'opposition centrafricain Dominique Yandoka. Après une année en prison où il assure avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement, 3 grèves de la faim et une libération, l'homme politique entend toujours s'impliquer pour une véritable alternance lors de la présidentielle de décembre prochain. Il reste cependant sous le coup d'une condamnation pour délit de complot. De passage à Paris, le leader politique du mouvement ITA, Initiative pour la transformation de l'action, explique pourquoi il réclame un dialogue politique. Il est au micro de Christophe Boisbouvier.
J'ai fait 3 grèves de la faim pour protester contre mon arrestation, parce que tout ça a été une machination orchestrée de toutes pièces depuis la présidence de la République.
Pourquoi avez-vous été arrêté, à votre avis ?
Tout simplement parce que le pouvoir me redoute. Donc ils ont tout fait pour que mon casier judiciaire soit sali, pour que je devienne inéligible à toutes les élections.
Oui, mais vous n'êtes pas le seul opposant en République centrafricaine.
Vous savez, je suis d'accord avec vous que je ne suis pas le seul opposant, mais en attendant, je suis de l'opposition et je suis député de 4e arrondissement.
De Bangui.
De Bangui, bien sûr. Et les gens redoutent que je puisse pousser la barre un peu plus haute. Et je suis prêt aujourd'hui à contribuer qu'il y ait une vraie alternance dans notre pays. En 2023, j'ai bien appelé à boycotter le référendum constitutionnel, tout simplement parce qu'il y avait des dispositions qui me semblent discriminatoires. Par exemple, toute personne qui détient la double nationalité ne peut plus prétendre à la magistrature suprême. Et ça a été fait à dessein, parce que le président Touadéra n'accepte pas qu'il y ait de la concurrence.
C'est une disposition qui écarte de fait Anissé Georges Dologuélé, Crépin Boligoumba et vous-même.
Oui, mais notre pays sort de très très loin. Et nous n'allons pas nous permettre encore qu'il y ait une autre division pour assouvir le besoin d'un seul clan ou d'un seul homme. C'est pour cette raison que je crois formellement qu'il va y avoir l'ouverture d'un dialogue pour que nous puissions discuter sur des points de divergence par rapport à cette constitution et donner la chance à tous les Centrafricains d'aller compétir.
Le député Dominique Yandoka, qui est l'invité d'Afrique Matin, interview complète à retrouver dans un peu moins d'une heure sur RFI. Et vous avez bien sûr reconnu cette musique. Quoi de neuf sous le soleil du Gondwana? Comme promis, nous retrouvons Maman dans la très démocratique République. Où Maman, il faut bien le dire, le désordre profite toujours à certains petits malins.
Oui, la très très démocratique République n'est pas pour rien surnommée la très très désordonnée République. Eh oui, le Gondwana est le QG du désordre. C'est sa maison, il habite ici, le désordre. Mais comme le dit le penseur paradoxal, c'est un désordre organisé. Un désordre qui n'est jamais perdu pour tout le monde. Un désordre qui fait le bonheur de certains petits malins et ce qu'on appelle les agents du désordre, par opposition aux forces de l'ordre qui, eux, sont censés maintenir l'ordre en très très démocratique république. Par exemple, à l'est du Gondwana, le désordre vaut de l'or, ou pour être plus précis, le désordre vaut de l'or, du diamant, du cobalt, du coltan, du cuivre, sans oublier l'or noir et le bois de rose. Tous ces éléments de la table de classification de Mendeleïev ne se ramassent pas dans le luxe, le calme et la volupté, hein, si tu veux être milliardaire toi tout seul. Non, il faut du désordre, il faut soulever beaucoup de poussière, parce que c'est connu, quand la poussière se lève, tu es à l'abri, tous les chats sont gris, personne ne sait qui est qui et qui fait quoi. Comme dit le dicton, pour vivre heureux, devenons riches cachés. C'est ainsi que dans le désordre, l'or, le diamant et le coltan se font la malle dans de grosses malles, ni vu ni connu, incognito, au nez et à la barbe du gondouanais lambda, lui, le vrai propriétaire, lui qui devrait en être le vrai bénéficiaire, si tout était fait dans l'ordre. Ben oui, les milliards sales n'aiment pas l'ordre, c'est dans le désordre qu'ils se multiplient. L'ordre, ben c'est pour gérer la misère, pour gérer la pauvreté. C'est pour ça que les pauvres font la queue dans l'ordre tout le temps pour tout et pour rien. Ils font la queue pour prendre le bus, la queue au guichet pour toucher leur petit salaire, la queue à l'hôpital, à la banque alimentaire, aux allocations familiales, la queue pour un certificat de naissance, la queue pour traverser la rue, trouver du boulot, bref, l'ordre règne dans la pauvreté. Le désordre, ben c'est le nouvel ordre mondial depuis toujours. Du désordre naît l'opulence, du vacarme des armes naît la richesse. Au Gondwana, c'est quand la poussière se lève, quand la visibilité est nulle, quand tous les chats sont gris, c'est là que naissent certaines carrières, les carrières des profiteurs du désordre, les rentiers du chaos. Ils s'infiltrent dans les interstices, jadis bien jalonnés du mérite républicain, de l'avancement en grade et échelon, des boutons de l'ascenseur social. Ils chantent l'ordre des choses parce que les désordres aiment la pénombre des nuages de poussière soulevés par les chambardements et le chamboultou. Et les voici devenus ministres de la rue publique, députés de l'arbre à palabre à la Sorbonne, pasteur télévangéliste de tribune de veille. Tout ce qu'il redoute, c'est la retombée de la poussière, le retour au rythme circadien normal, jour, nuit, taco, boulot, dodo, travail, salaire, un homme, une voix. À demain.
À demain, Maman. C'est la fin de cette édition préparée aujourd'hui par Sébastien Duhamel. Laurent Hérault était à la réalisation. Prochain point complet sur l'actualité africaine dans un peu moins d'une demi-heure. En attendant, RFI Matin, ça commence dans une minute avec Nemo en Peace.
Ce mercredi, vivez sur RFI la soirée spéciale Ligue des Champions. Cédric de Oliveira.
Objectif 8e de finale. Le Real Madrid de Kylian Mbappé retrouve Manchester City une semaine après sa victoire 3-2 en Angleterre. Pep Guardiola et les Sky Blues rêvent de prendre leur revanche. Le PSG tentera lui de confirmer sa large victoire à Brest 3-0. Les barrages retour de la Ligue des Champions, ce sera à vivre en direct et en intégralité ce mercredi sur RFI à partir de 19h40 TU.
Je suis japonaise et j'écoute le journal en français facile depuis 2 ans.
Le journal en français facile, Adrien Delgrange.
Je vous retrouve du lundi au vendredi pour un journal d'information internationale. 10 minutes pour mieux comprendre l'actualité mondiale en français.
Le vocabulaire est moins compliqué que sur les autres chaînes de radio.
Retrouvez Adrien Delgrange pour le journal en français facile tous les jours de la semaine à 16h temps universel sur RFI.
Merci, le journal en français facile.